Ainur Lindale. La musique de Ainur. Il y avait Eru, l'unique, qu'en Arda l'on nomme Ilúvatar. Et il créa d'abord les Ainur, les saints, qui procédaient de sa pensée. Et ils étaient avec lui avant que rien autre fût créé. Et il leur parla, leur exposant des thèmes musicaux. Puis, ils chantèrent devant lui, et il se réjouit. Mais longtemps ils ne chantèrent qu'un seul à la fois, ou quelques-uns ensemble, tandis que les autres prêtaient l'oreille. Car chacun ne comprenait que cette part de l'esprit d'Ilúvatar dont il était issu, et tous n'accédaient que lentement à l'intelligence de leurs frères. Mais tandis qu'ils écoutaient, cette intelligence se fit plus profonde, et ils gagnèrent en unisson et en harmonie. Et il advint qu'Ilúvatar appela tous les Ainur à se réunir et leur déclara un thème formidable, leur dévoilant des choses plus grandes et plus merveilleuses qu'il n'en avait encore révélées. Et la gloire de son commencement et la splendeur de sa conclusion éblouirent les Ainur de sorte qu'ils se prosternèrent devant Ilúvatar et se turent. Ilúvatar leur dit alors « Du thème que je vous ai déclaré, or, j'ai vouloir que vous fassiez tous en harmonie une grande musique. Et comme j'ai suscité en vous la flamme impérissable, vous exercerez vos pouvoirs afin d'ornementer ce thème, chacun suivant sa pensée et sa façon, si telle est sa volonté. Mais je resterai assis à écouter, me réjouissant de ce que, à travers vous, une grande beauté soit éveillée en chant. » Lors, les voix des Ainur, telles des harpes et des luttes, des pipeaux et des trompes, des violes et des orgues, et telles des chœurs innombrables usant des mots, se mirent à façonner le thème d'Ilúvatar en une grande musique. Et il s'éleva un son d'infinies mélodies entremêlées, tissées en harmonie, qui dépassait l'audible tant en hauteur qu'en profondeur. Et les lieux du séjour d'Ilúvatar furent emplis à tel excès que la musique et l'écho de la musique se répandirent dans le vide, et il ne fut plus vide. Jamais plus les Ainur ne firent aucune musique semblable à Issel, bien qu'on ait dit qu'une autre, plus grande encore, sera produite devant Ilúvatar par les chœurs des Ainur et des enfants d'Ilúvatar après la fin des jours. Lors, les thèmes d'Ilúvatar seront joués proprement, et ils viendront à être, au moment de leur énonciation, car tous comprendront alors pleinement son intention à leur égard, et chacun saisira l'entendement de chacun. Et Ilúvatar dotera leur pensée du feu secret, dans sa grande satisfaction. Mais pour lors, Ilúvatar était assis et écoutait. Et pour un long moment, cela lui parut bon, car la musique était sans défaut. Mais tandis que le thème progressait, il vint au cœur de Melkor d'y entremêler des idées de sa propre invention qui ne s'accordaient pas au thème d'Ilúvatar, car il cherchait ainsi à magnifier la puissance et la gloire de la partie qui lui était assignée. Melkor avait, de tous les Ainur, reçu les plus grands dons de pouvoir et de connaissance, et il avait hérité d'une part des dons de tous ses frères. Souvent, il s'était rendu seul dans les espaces vides en quête de la flamme impérissable, car il lui brûlait de faire venir à être des choses de son propre génie, et il lui semblait qu'Ilúvatar ne tenait aucun compte du vide, et sa vacuité l'impatientait. Or, il ne trouva point le feu, car il est auprès d'Ilúvatar. Mais dans sa solitude, il s'était mis à concevoir des pensées qui lui étaient propres, étrangères à celles de ses frères. Il tissa alors certaines d'entre elles dans sa musique, et sitôt le désaccord retentit autour de lui, et nombre de ceux qui chantaient auprès de lui se troublèrent, et leur pensée fut dérangée, et leur musique vacilla. Mais d'autres commencèrent d'accorder leur musique à la sienne plutôt qu'à l'idée qu'ils avaient au départ. Lors, la discordance de Melkor s'étendit toujours plus, et les mélodies entendues auparavant se noyèrent dans un flot sonore et tumultueux. Mais Ilúvatar resta assis, et écouta jusqu'à ce que son trône fût comme entouré d'une furieuse tempête, telle des eaux sombres s'opposant les unes aux autres en un courroux sans bornes que rien ne pouvait apaiser. Lors, Ilúvatar se leva, et les Ainur comprirent qu'il souriait. Et il leva sa main gauche, et un nouveau thème s'éleva dans la tourmente, semblable et pourtant dissemblable au thème premier. Et il gagna en puissance et se para d'une beauté nouvelle. Mais la discordance de Melkor s'éleva de plus belle pour rivaliser avec lui. Et il y eut une lutte de sons plus violente encore, tant et si bien que de nombreux Ainur perdirent contenance et cessèrent leur chant. Et Melkor eut le dessus. Lors, Ilúvatar se leva de nouveau, et les Ainur perçurent que son visage était sévère. Et il leva sa main droite, et voyez, un troisième thème s'éleva parmi la confusion, et il différait des autres. Car au début, il parut doux et agréable, au plus un frémissement de son délicat en de fragiles mélodies. Mais son élan était irrésistible, et il gagna en puissance et en profondeur. Et il sembla enfin que deux musiques concouraient devant le siège d'Ilúvatar, et elles s'opposaient entièrement. L'une était large et ample et belle, mais lente et mêlée d'une tristesse incommensurable, d'où elle tirait l'essentiel de sa beauté. L'autre avait désormais atteint à sa propre unité, mais elle était bruyante et vaine, et sans cesse répétée. Et son harmonie était pauvre, criard unisson, comme d'un cœur de trompette braillant ses rares notes. Et elle essayait de noyer la première par la véhémence de sa voix, mais il semblait que ses notes les plus triomphantes étaient reprises par l'autre musique et tissées à sa grande et majestueuse trame. Au milieu de cette lutte, alors que les halles d'Ilúvatar tremblaient et qu'un frisson traversait au loin les silences encore vierges, Ilúvatar se leva une troisième fois. Et sa figure était terrible à voir. Puis il leva les deux mains, et d'un seul accord, plus profond que l'abysse, plus haut que le firmament, aussi perçant que la lumière de l'œil d'Ilúvatar, la musique cessa. Lors, Ilúvatar parla, et il dit « Puissants sont les Ainur, et Melkor le plus puissant d'entre eux. Mais afin qu'ils sachent, ainsi que tous les Ainur, que je suis Ilúvatar, ces choses que vous avez chantées, je les rendrai manifestes, que vous voyez ce que vous avez fait. Et toi, Melkor, tu verras qu'aucun thème ne peut être joué qui ne trouve en moi sa source première, et que nul ne peut altérer la musique contre mon gré. Car qui s'y essaye se révélera mon seul instrument en la création de choses plus merveilleuses que lui-même n'avait pas imaginées. » Alors les Ainur prirent peur, et pour lors ne comprirent pas les mots qui leur étaient adressés. Et Melkor fut empli de honte, d'où lui vint une colère secrète. Mais Ilúvatar se leva avec splendeur, et il quitta les belles régions qu'il avait créées pour les Ainur, et les Ainur le suivirent. Mais lorsqu'ils arrivèrent dans le vide, Ilúvatar leur dit « Voyez votre musique !» Et il leur montra une vision, et ce faisant leur donna la vue, là où n'avait été que l'ouïe. Et ils virent qu'un monde nouveau leur était révélé, enchâssé au milieu du vide. Et il y était suspendu, sans en être toutefois. Et tandis qu'ils regardaient et s'émerveillaient, ce monde entama son histoire. Et il leur parut vivre et croître sous leurs yeux. Et lorsque les Ainur l'eurent contemplé un moment et firent silence, Ilúvatar dit encore « Voyez votre musique, c'est là votre ménestrandille. Et chacun de vous trouvera ci-dedans, mêlé au dessin que je vous ai montré, toutes ces choses qu'il se figure peut-être avoir créées ou ajoutées lui-même. Et toi, Melkor, tu y découvriras toutes les pensées secrètes de ton esprit, et tu percevras qu'elles ne sont que parties du tout, et tributaires de sa gloire. » Or, Ilúvatar leur fit maint autre discours en ce temps-là. Et tous ayant le souvenir de ces mots, et chacun ayant connaissance de la musique qu'il a lui-même faite, les Ainur en savent long sur ce qui fut, ce qui est, et ce qui sera, et peu de choses échappent à leur vue. Il est toutefois des choses qu'ils ne peuvent voir, ni par eux-mêmes, ni en tenant conseil. Car à nul autre que lui-même, Ilúvatar n'a révélé tout ce qu'il garde en réserve, et chaque âge amène des choses nouvelles qui ne se peuvent prédire, car elles ne procèdent pas du passé. Et donc, au moment où cette vision du monde leur était donnée, les Ainur virent qu'elle contenait des choses qu'ils n'avaient point pensées. Et ils contemplèrent avec étonnement la venue des enfants d'Ilúvatar et l'habitation ménagée pour eux. Et ils perçurent que, dans l'élaboration de leur musique, eux-mêmes avaient œuvré à l'aménagement de cette demeure, sans qu'ils lui vissent aucune raison d'être, hors sa seule beauté. Car les enfants d'Ilúvatar furent conçus par lui seul. Entrés dans le troisième thème, ils ne figuraient pas dans le thème qu'Ilúvatar exposa au commencement, et aucun des Ainur n'eut part à leur création. Ainsi, lorsqu'ils les virent, ils s'éprirent d'autant plus de ces êtres extérieurs à eux-mêmes, étranges et libres, à travers lesquels ils entrevoyaient l'esprit d'Ilúvatar sous un jour nouveau, et s'imprégnaient un peu plus de sa sagesse, qui autrement avait été cachée, même aux Ainur. Or, les enfants d'Ilúvatar sont les elfes et les hommes, les premiers-nés et les suivants. Et parmi toutes les splendeurs du monde, ces vastes halles, ces grands espaces et ces feux tournoyants, Ilúvatar choisit le lieu de leur habitation dans les profondeurs du temps et parmi les étoiles innombrables. Et cette habitation peut sembler peu de chose pour qui ne regarde que la majesté des Ainur et non leur terrible acuité. Pour qui aussi prendrait tout le champ d'Arda pour la base d'une colonne et ainsi l'élèverait jusqu'à ce que la pointe de sa cime soit plus âcre qu'une aiguille. Ou qui ne regarde que la taille incommensurable du monde que les Ainur sont encore à former, et non l'infinie précision qu'ils apportent au façonnement de toutes choses y comprises. Mais lorsqu'ils eurent contemplé cette habitation en une vision, et vu naître les enfants d'Ilúvatar en son sein, bon nombre des plus puissants d'entre eux tendirent toutes leurs pensées et leurs désirs vers cet endroit. Et de cela, Melkor était le plus grand, comme il fut au commencement le plus grand des Ainur à prendre part à la musique. Et il fit croire, et à lui-même au début, qu'il désirait se rendre là-bas et ordonner toutes choses pour le bien des enfants d'Ilúvatar, afin de tempérer les effets de la chaleur et du froid qui s'étaient manifestés à travers lui. Mais il désirait plutôt soumettre elfes et hommes à sa volonté, jaloux des dons qu'Ilúvatar avait promis de leur impartir. Et il souhaitait s'adjoindre des serviteurs et des sujets, se faire appeler seigneur et se rendre maître de la volonté d'autrui. Mais les autres Ainur contemplèrent cette habitation sertie dans les vastes espaces du monde que les elfes nomment Arda, la terre, et sa lumière mit leur cœur en joie, et leurs yeux furent ravis par la multitude de couleurs. Mais à cause du grondement de la mer, ils ressentirent une grande inquiétude. Et ils observèrent les vents et l'air, et ces matières dont Arda était faite, de fer et de pierre, d'argent et d'or, et de maintes substances. Mais l'eau attira entre toutes leurs plus grandes louanges. Et il est dit chez les Eldar que dans l'eau vit encore l'écho de la musique des Ainur, plus que dans toute autre substance de cette terre. Et nombreux sont les enfants d'Ilúvatar qui ne laissent pas de prêter l'oreille aux voix de la mer sans pourtant savoir ce qu'ils cherchent à entendre. Or, c'est vers l'eau que s'était tournée la pensée de cet Ainu que les elfes nomment Ulmo, qui entre tous avait reçu d'Ilúvatar la plus profonde instruction en musique. Mais c'est aux airs et aux vents surtout qu'avait songé Manwë, le plus noble de tous les Ainur. L'étoffe de la terre avait occupé la pensée d'Aolé, lui qu'Ilúvatar avait doté d'un savoir et d'une habileté guère inférieurs à ceux de Melkor. Mais le plaisir et la fierté d'Aolé résident dans l'acte de faire et dans la chose faite, non dans sa possession ni dans sa propre maîtrise. C'est pourquoi il donne et n'amasse pas, et reste libre de tout souci, toujours passant à un nouvel ouvrage. Et Ilúvatar parla à Ulmo, et il dit « Ne vois-tu pas comment, dans ce petit royaume des profondeurs du temps, Melkor a fait la guerre à ton fief ? Il s'est représenté un froid mordant et immodéré, mais n'a pourtant altéré la beauté de tes fontaines ni de tes clairs étangs. Regarde la neige et l'œuvre industrieuse du givre. Melkor a imaginé une chaleur et un feu sans bornes, et n'a pas asséché ton désir ni étouffé entièrement la musique de la mer. Vois plutôt la hauteur et la majesté des nuages, et les brumes toujours changeantes, et écoute le bruissement de la pluie sur la terre. Et ces nuages te rapprochent de Manwë, ton ami, qui t'est cher. L'or Ulmo répondit, « En vérité, l'eau est désormais plus belle que mon cœur ne l'imaginait, et ma pensée secrète n'avait point conçu le flocon de neige, pas plus que toute ma musique ne contenait le son de la pluie. J'irai quérir Manwë, que lui et moi puissions faire des mélodies pour toujours et pour ta plus grande joie. » Et Manwë et Ulmo ont été depuis le commencement des alliés, et en toutes choses ont servi le plus fidèlement la volonté d'Ilúvatar. Mais lors même qu'Ulmo parla, et tandis que les Ainur regardaient encore cette vision, celle-ci fut retirée et cachée à leur vue. Et il leur sembla qu'en cet instant, ils percevaient une chose nouvelle, l'obscurité, qu'ils n'avaient pas connue avant, hormis en pensée. Mais ils s'étaient épris de la beauté de la vision, captivés par le déploiement du monde qui avait pris forme au-dedans, et leur esprit en était rempli. Car l'histoire était inachevée, et les cercles du temps n'étaient point révolus quand la vision avait été retirée. Et d'aucuns ont dit que la vision avait cessé avant l'avènement de la domination des hommes et l'évanouissement des premiers-nés. Ainsi, bien que la musique recouvre tout, les Valar n'ont pas vu de leurs yeux les derniers âges ou la fin du monde. Or l'agitation régnait parmi les Ainur, mais Ilúvatar les appela et il dit « Je sais quel désir occupe vos esprits, que ce que vous avez vu soit en vérité, non seulement en vos pensées, mais comme vous êtes vous-même, bien qu'en autre manière. C'est pourquoi je dis « Ea, que ces choses soient, et j'enverrai par le vide la flamme impérissable qui alors sera au cœur du monde. Et le monde va être, et ceux d'entre vous qui le veulent pourront y descendre. » Et soudain les Ainur virent au loin une lumière, tel un nuage abritant en son cœur une flamme vive. Et ils surent que ce n'était pas là une vision, mais qu'Ilúvatar avait créé une chose nouvelle. Ea, le monde qui est. Ainsi il advint que, du nombre des Ainur, certains restèrent auprès d'Ilúvatar au-delà des confins du monde. Mais d'autres, maints d'entre eux parmi les plus grands et les plus beaux, se prévalurent du congé d'Ilúvatar et y descendirent. Mais Ilúvatar posa cette condition, ou est-ce une exigence de leur amour, que leur pouvoir soit dorénavant contenu dans le monde et limité à lui pour y demeurer à jamais, jusqu'à ce qu'il soit achevé, pour qu'eux en soient la vie et que lui soit la leur. Et c'est pourquoi on les nomme les Valar, les puissances du monde. Mais lorsque les Valar pénétrèrent en Ea, ils furent abasourdis et désemparés au début, car c'était comme si rien n'était encore fait de ce qui leur avait été donné à voir, et tout n'était qu'à la veille de poindre et encore informe, et il faisait sombre. Car la grande musique n'avait été que développement et floraison de la pensée au sein des halles intemporelles, et la vision seulement une annonce. Mais ils y entraient dès lors au commencement du temps. Et les Valar perçurent que le monde n'avait été que montré et chanté par avance, et qu'il leur fallait l'accomplir. Ainsi commencèrent leurs grands travaux en des étendues immenses et inexplorées, et en des âges innombrables et oubliés, jusqu'à ce que dans les profondeurs du temps et parmi les vastes halles d'Ea, advinrent cet instant et ce lieu où s'érigea l'habitation des enfants d'Ilúvatar. Et la plus grande part de ce labeur fut l'œuvre de Manwë et d'Aulë et d'Ulmo. Mais Melkor aussi y était dès le commencement, et il s'immissa dans tous les ouvrages, les pliant comme il le pouvait à ses propres désirs et desseins. Et il alluma de grands feux. Quand donc la terre était encore jeune et couverte de flammes, Melkor la convoita, et il dit aux autres Valar, « Ce royaume sera mien, et je le nomme en mon propre nom. » Mais Manwë était le frère de Melkor dans l'esprit d'Ilúvatar, et le principal instrument du deuxième thème qu'Ilúvatar avait opposé à la discordance de Melkor. Et il appela à lui une cohorte d'esprits plus ou moins puissants, et ils descendirent sur les champs d'Arda et vinrent en aide à Manwë, afin que Melkor n'entravât indéfiniment la réalisation de leurs travaux et que la terre ne se flétrit avant que de fleurir. Et Manwë dit à Melkor, « De ce royaume, tu ne feras ton propre bien, injustement, car beaucoup d'autres ont œuvré ici, non moins que toi. » Et une lutte s'engagea entre Melkor et les autres Valar. Et pour cette fois, Melkor se retira et partit pour d'autres régions, où il fit comme il l'entendait. Mais le désir du royaume d'Arda, il n'écarta point de son cœur. Or les Valar se donnèrent forme et aspect. Et comme ils avaient été entraînés dans le monde par amour pour les enfants d'Ilúvatar, qu'ils espéraient, ils prirent une forme pareille à celle contemplée dans la vision d'Ilúvatar, sinon en majesté et en splendeur. Et leur forme, qui plus est, procède de leur connaissance du monde visible plutôt que du monde en soi. Et ils n'en ont aucun besoin, sinon comme nous en avons de vêtements, sachant que nous pouvons être nus sans y perdre de notre être. Ainsi les Valar peuvent-ils aller sans vêtements s'ils le veulent, et alors même les Eldar ne peuvent nettement les percevoir, bien qu'ils soient présents. Mais lorsqu'ils désirent être vêtus, les Valar se prêtent des formes masculines pour les uns et féminines pour les autres, car cette différence de tempérament était en eux dès le début, et elle n'est qu'incarnée selon le choix de chacun, non fixée par ce choix, tout comme masculinité et féminité peuvent être exprimées chez nous par le vêtement, mais non fixées par lui. Mais les formes dont les grands ont coutume de se parer ne ressemblent pas toujours à celles des rois et reines des enfants d'Ilúvatar, car il leur arrive de se vêtir de leur propre pensée, laquelle se manifeste en des visions de majesté et d'effroi. Et les Valar s'attirèrent de nombreux compagnons, moindres pour certains, presque aussi grands pour d'autres, et ils travaillèrent ensemble à l'ordonnance de la terre et à l'apaisement de ses tumultes. Alors Melkor vit ce qu'ils avaient fait, et constata que les Valar allaient sur terre comme des puissances visibles, parées de la vêture du monde, splendides et beaux à voir, et bienheureux, et que la terre devenait un jardin pour leur agrément, car ses troubles étaient maîtrisés. Sa jalousie ne l'en accapara que davantage, et il prit aussi forme visible, bien que, à cause de son humeur et de la malveillance qui brûlait en lui, elle fut sombre et terrible. Et il descendit sur Arda, avec une puissance et une majesté plus grande qu'aucun autre des Valar, telle une montagne marchant dans l'océan, la tête au-dessus des nuages, les flancs recouverts de glace, de feu et de vapeur couronnée. Et l'éclat des yeux de Melkor était-elle une flamme dévorante dont la morsure est d'un froid mortel. Ainsi s'engagea la première bataille des Valar contre Melkor pour la domination d'Arda. Et de ces désordres, les elfes ne savent que peu de choses. Car ce qui fut énoncé plus haut provient des Valar eux-mêmes, avec qui ceux de l'Eldalié se sont entretenus dans le pays de Valinor et de qui ils ont reçu leur instruction. Mais les Valar n'ont jamais voulu s'étendre sur les guerres d'avant la venue des elfes. On dit toutefois chez les Eldar que les Valar ont toujours cherché, en dépit de Melkor, à gouverner la terre et à l'aménager pour la venue des premiers-nés. Et ils levaient des terres et Melkor les détruisait, creusaient des vallées que Melkor comblait, taillaient des montagnes que Melkor abattait, formaient des océans que Melkor vidait. Et rien ne pouvait exister en paix et s'épanouir durablement, car sitôt les Valar commençaient un ouvrage, sitôt Melkor le défaisait ou le dégradait. Pourtant leur labeur ne fut pas entièrement vain, et bien que leur volonté et leur dessein n'eussent été pleinement accomplis, nulle part et en aucune œuvre, et si toute chose avait une forme et une semblance autre que celle voulue à l'origine par les Valar, peu à peu néanmoins, la terre prit forme et consistance. Et ainsi, L'habitation des enfants d'Iluvatar fut enfin établie dans les profondeurs du temps et parmi les étoiles innombrables.